De Paul aux Thessaloniciens. La première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 5. Première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5. Voilà, nous pourrions lire à partir du verset 15. Première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 15. Nous lisons ceci, « Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. » Soit envers tous, pardon. « Soyez toujours joyeux, riez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. » Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Voilà, donc c'est là. Ce sont des versets qui se trouvent non loin de la fin de la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Vous savez que l'église de Thessalonique était une jeune église. Paul avait été l'instrument de Dieu pour que cette église vienne à l'existence dans la ville de Thessalonique. Paul avait dû la quitter précipitamment à cause d'une persécution et il l'avait laissée pendant un temps. Il avait été rassuré par ses collaborateurs, notamment Timothée, qui était allé retrouver ses chrétiens et avait trouvé que malgré la persécution, malgré l'opposition auquel ils étaient confrontés, bien, ils tenaient ferme dans le Seigneur, ce qui a réconforté l'apôtre Paul, qui leur a envoyé cette lettre pour les encourager, pour les enseigner et pour les exhorter à tenir ferme dans la foi. Vers la fin de cette première épître aux Thessaloniciens, Paul aborde un point bien particulier. Il parle aux Thessaloniciens du retour du Seigneur. Et il va parler du retour du Seigneur sous deux angles. D'abord en tant que consolation glorieuse pour ceux qui perdent un être cher dans le Seigneur. Paul va encourager les Thessaloniciens à ne pas s'affliger comme ceux qui n'ont pas d'espérance. On peut supposer qu'à cause de la persécution, certains membres de l'église de Thessalonique avaient trouvé la mort. Et bien sûr, il y avait beaucoup de peine, de chagrin pour leurs familles, leurs proches. Mais Paul va leur rappeler cette réalité que les morts en Christ ressusciteront premièrement à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, un signal donné, le Seigneur reviendra, et alors les morts en Christ ressusciteront. Et puis, ceux qui seront restés, eh bien, seront enlevés dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça, c'est une expérience glorieuse qui doit nous soutenir lorsque même nous perdons un bien-aimé dans le Seigneur. Puis là, le retour du Seigneur, son avènement, est aussi un sujet de vigilance. Paul va dire aux Thessaloniciens, voilà, nous sommes non pas comme ceux qui s'enivrent la nuit, qui vivent la nuit, mais nous sommes des enfants du jour et, voyez, nous ne devons pas nous endormir, mais continuer à veiller pour que le retour du Seigneur ne nous trouve pas pas prêts, hein, et que nous puissions au contraire être veillants lorsqu'il va revenir afin que nous partions avec lui. Et ça demande de la vigilance. C'est un petit peu l'idée que Paul reprend ici. Quant à la fin de son épître, il va écrire que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être soit conservé irrépréhensible pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que je vais retenir de ce verset, c'est la précision que Paul va donner lorsqu'il parle aux Thessaloniciens de cette nécessité de se tenir prêt pour le retour de Jésus-Christ. Et il va parler de l'être des Thessaloniciens et va dire que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Et c'est loin d'être un détail, parce que cette réalité qui est exprimée dans ce verset à bien d'autres endroits de la Bible, dans les épîtres de Paul, mais pas seulement, est développée et joue un rôle important quant à ce qu'il nous révèle sur notre être, sur l'être de l'homme, en tant que créature de Dieu, et aussi par rapport à la vie chrétienne. Voilà. L'être de l'homme, on le voit ici, hein, est constitué de l'esprit, d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Hein, il y a donc trois parties dans l'être humain tel que Dieu l'a créé, l'esprit, l'âme et le corps. Et c'est un petit peu sur ce point que j'aimerais m'entretenir ce matin avec vous. Trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. Certains ont parfois voulu comparer cet enseignement sur l'homme à l'enseignement de l'Écriture sur la personne de Dieu. Et on a voulu établir des parallèles entre l'homme, esprit, âme et corps, et Dieu, Dieu qui existe en tant que trois personnes, quoi qu'il soit un Dieu unique, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je crois qu'il faut comparer ce qui est comparable. La parole de Dieu nous enseigne un certain nombre de choses relativement à la personne bénie et glorieuse de Dieu. Il est le Dieu unique, le Dieu vivant et vrai. Il y a un seul Dieu. Mais la parole de Dieu, effectivement, nous révèle également que ce Dieu existe et se manifeste en tant que trois personnes, la personne bénie du Père, le Fils et la personne bénie de l'Esprit. Trois personnes, voyez, un Dieu unique. Ça dépasse notre raisonnement, nous le recevons néanmoins par la foi, c'est une réalité que la Bible nous révèle. L'homme est l'homme, voyez, nous sommes une créature. Nous sommes une créature, Dieu est le créateur. Et nous n'existons pas en tant que trois personnes, voyez, nous sommes, voilà, il y a un être, chacun de nous constitue un être, et la Bible nous révèle, c'est tout à fait différent, hein, que nous existons et que nous sommes composés de trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. Donc je le dis, il faut comparer ce qui est comparable. Il ne reste pas moins que l'enseignement de la parole de Dieu est très clair et d'une certaine manière est important. Lorsque l'on s'intéresse à cette identité de l'être humain qui existe en tant qu'esprit, âme et corps. La Bible nous révèle ici, et à d'autres endroits, que l'esprit, l'âme et le corps sont en effet trois parties distinctes de notre être. On va le voir, c'est important. Le fait que ces trois parties, esprit, âme et corps, soient distinctes, ne signifie pas toutefois qu'elles soient indépendantes l'une de l'autre, mais il y a des occasions où ces trois parties de notre être, elles vont exercer une influence les unes sur les autres. Alors, je prends des exemples de l'Écriture, bien entendu. Regardez, quand quelqu'un est malade ou fatigué, eh bien, il se peut que ça porte une influence là, sur son mental, sur son moral. C'est l'influence là, du corps sur l'âme. Et dans les psaumes de David, il est très fréquent de voir David parlant de son chagrin, de l'abattement de son âme, suite à la fatigue qu'il a dû subir, ou parfois même à la maladie. Vous voyez, il y a une relation entre l'âme et le corps. Inversement, lorsque la tristesse, vous voyez, nous assaille, que nous passons par des temps de peine, eh bien, ça nous est tous arrivé, on se sent fatigué, on se sent là, même notre corps... On ressent les effets. C'est l'influence de l'âme sur le corps. Il y a même parfois l'influence de l'esprit sur le corps. Quand quelqu'un est convaincu de péché, voyez, David en parle hein, dans le psaume 32 par exemple, le psaume 51 aussi. Voyez, quand quelqu'un est convaincu de péché, même son corps en ressent les effets. J'ai les os qui se dessèchent, écrira le psalmiste. C'est l'influence de l'esprit sur le corps. Quand une tristesse ou une épreuve hein, nous accapare, il arrive que malheureusement nous en soyons troublés même dans la prière. Prenons l'exemple du maître qui, au jardin de Gethsémané, a éprouvé de la tristesse et des angoisses et qui, pour pouvoir prier le Père, voyez, a dû bénéficier de l'intervention d'un ange que le Père, quel mystère, hein, lui a envoyé pour le fortifier. C'est l'influence de l'âme sur l'esprit. Et puis, même quand nous sommes fatigués, j'ai souvent entendu des chrétiens qui ont dû être hospitalisés ou qui passaient par une période de fatigue intense se dire, mais je ne sais pas ce qui m'arrive, hein, j'ai été opéré par exemple et je n'arrive pas à prier. Hein, vous avez jamais entendu ou vécu ça? Vous voyez, c'est normal. Hein, heureusement, Dieu sait de quoi nous sommes formés. C'est l'influence du corps, ça, sur l'esprit, voyez. Voilà, donc on garde ça à l'esprit, ces trois parties de notre être, l'esprit, l'âme et le corps, sont distinctes, mais elles exercent une influence les unes sur les autres. À quoi correspondent-elles? Il faut savoir de quoi on parle avant d'aller plus avant dans notre réflexion. Je crois que le plus facile, c'est de définir ce qu'est le corps. Je crois que nous savons tous ce qu'il en est. C'est cette partie de notre être qui est visible, qui nous met en relation avec le monde physique. Une partie que l'on voit, inutile que nous la décrivions en détail. Notre corps est composé de membres. Ils remplissent chacun une fonction. Dieu a bien fait les choses. Nous avons des yeux, un nez, des doigts, des pieds, qui ont chacun une fonction. Et notre corps réagit à divers facteurs, le froid, la chaleur, la fatigue, la maladie, etc. Nous savons tous ce qu'il en est. Avec l'âme, nous arrivons à une partie de notre être qu'il est déjà plus difficile à définir, parce que elle est invisible. Elle est invisible et même les hommes de science, avec tout leur progrès, ne parviennent pas à la discerner. Quand nous sommes malades, vous savez que le médecin nous fait une ordonnance, et si nous avons mal, je ne sais pas, au foie ou au rein, il nous envoie faire une radio, et hop, un coup de rayon X révèle un petit peu à quoi ressemblent nos organes, même s'ils sont cachés à l'œil nu. En revanche, même les appareils les plus sophistiqués ne feront pas apparaître l'âme. Elle est invisible même au rayon X. Pourtant, elle existe. Et elle est distincte du corps, car quand le corps retourne à la poussière d'où il a été tiré, l'âme continue, elle, à vivre. Elle continue à exister. Qu'est-ce que c'est que l'âme? Encore une fois, elle est difficile à définir. Je ne prétends pas donner une liste exhaustive, mais on trouve, même dans l'Écriture, des choses qui nous confortent dans cette réflexion. L'âme, c'est le siège de nos pensées. Faculté de réfléchir, faculté de penser, de considérer les choses, ça se passe au niveau de l'âme, ça. C'est aussi le siège des émotions. Nous pouvons éprouver de la tristesse, de la joie, de la peur, de l'affection. Tout ça, c'est du domaine de l'âme. Ou encore, l'âme, c'est le siège de la volonté. On peut décider de faire quelque chose ou refuser d'en faire d'autres. Ça se passe aussi, tout ça, au niveau de l'âme. Ça se passe au niveau de l'âme. La volonté, c'est différent de la simple pensée, c'est différent des affections. Mais tout ça, c'est en nous. Dieu nous a créés avec ces multiples capacités. C'est remarquable, ce que Dieu a fait quand il a créé l'homme. Il nous a dit qu'il a pris de la poussière de la terre, il a tiré l'homme de la poussière de la terre, il a soufflé un souffle de vie, et l'homme est devenu une âme vivante. Ça nous dépasse, ce que Dieu a fait, mais tout ce que Dieu fait, il le fait bien. Et puis l'esprit, alors c'est une partie peut-être plus difficile encore à définir, l'esprit. C'est une partie qui est distincte du corps. Tenez, regardez ce verset de la première épître aux Corinthiens, où Paul exhorte les Corinthiens à glorifier le Seigneur dans leur corps et dans leur esprit. On voit bien qu'il y a deux parties différentes, qui appartiennent à Dieu. Mais si l'esprit est différent du corps, s'il est distinct du corps, il est aussi distinct de l'âme. Et là, je vous invite à lire un verset pour nous en convaincre. On va lire dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4. Voilà, Épître aux Hébreux, chapitre 4, et au verset 12. Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12, où il nous a dit « Car la parole de Dieu est vivante, vous l'avez ?« Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Jointures et moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Voilà, on voit bien ici que l'âme est différente de l'esprit, puisque la parole de Dieu, par son action efficace, peut-être nous aurons le temps d'en parler, elle agit parfois de telle sorte que nous discernons en nous-mêmes cette différence qui existe entre notre âme et notre esprit. On va le voir, parfois c'est tout à fait pratique, nous ne nourrissons pas simplement notre esprit de réflexions intellectuelles ce matin, ce sont des choses qui ont une incidence tout à fait pratique sur notre vie chrétienne. Qu'est-ce que l'esprit? C'est la partie de notre être qui va entrer en contact avec le monde spirituel. Voilà, Dieu nous a créés ainsi, pour que nous soyons en contact avec lui. Or, on reviendra sur ce verset, vous souvenez ce que le Seigneur a déclaré à la femme samaritaine, alors qu'ils étaient assis au bord du puits. Il parlait de la manière dont les ancêtres de cette femme, les Samaritains, avaient adoré les endroits où ils se rendaient. Et le Seigneur, pour dissiper tout malentendu, va lui dire: Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Voilà. Donc c'est la partie de notre être qui peut entrer en contact avec le monde spirituel. Elle est différente de l'âme, car nous allons le voir, hein, sans une action spirituelle, il est impossible pour l'âme de l'homme de connaître Dieu. Vous savez que des gens dans leur ignorance, hein, qui ne connaissent pas l'Évangile, qui ne connaissent pas Christ, parfois, hélas, hein, peuvent entrer dans le monde spirituel par ignorance, parfois de manière coupable, parce que leur conscience, voyez, les avertit, mais en se livrant à toutes sortes de pratiques que la Bible condamne, hein, la divination, le spiritisme, la consultation de toutes sortes de gens qui trafiquent avec le monde spirituel ténébreux et mauvais. Et là aussi, hein, leur esprit est concerné, mais il va subir une influence négative. Le Seigneur nous appelle à connaître Dieu en esprit. Alors, une deuxième pensée importante, maintenant que nous avons défini le corps, l'âme et l'esprit, bien, nous ne pouvons pas connaître Dieu. C'est vrai pour celui qui s'approche pour la première fois, c'est vrai pour nous, chrétiens. Nous ne pouvons pas connaître Dieu, nous ne pouvons pas progresser en lui, être en relation avec lui, autrement que par l'esprit. Par l'esprit. Ça paraît élémentaire, mais nous le rappelons néanmoins, on ne peut pas être en communion avec Dieu simplement par l'intermédiaire du corps. Bon, il y a des matérialistes, ce sont des gens qui vous diront, je suis un matérialiste, hein, je ne crois que les choses physiques, je ne crois que ce que je vois. Voilà, ces gens-là, en général, ne sont pas croyants, ça ne signifie pas qu'un jour, ils n'auront pas à comparaître aussi devant Dieu et à rendre compte de la manière dont ils auront mené leur vie terrestre. Mais on voit bien que le corps ne nous permet pas d'être en communion avec Dieu par lui seul. L'âme ne nous permet pas non plus, s'il n'y a pas d'action spirituelle, de connaître Dieu. C'est vrai dans le domaine de la pensée. Vous voyez, il y a des gens qui pensent qu'en étudiant la théologie, en réfléchissant aux choses, même en réfléchissant à la Bible, hein, pourquoi pas, ils vont pouvoir connaître Dieu. Et vous avez des gens qui font des études de théologie, qui s'inscrivent à un séminaire, et ils pensent que par la force, par l'opération de leur pensée, ils vont pouvoir connaître quelque chose de Dieu. Eh bien, ça, c'est absolument pas vrai. Ça ne fonctionne pas comme ça. Souvenons-nous de cette action de grâce, hein, que le Seigneur va un jour faire monter avec son Père, quand il dira: « Je te loue, Père, ô Dieu du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. » Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et encore cette parole de Paul aux Corinthiens, dans laquelle il va dire j'anéantirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. C'est le Seigneur, hein, qui parle ainsi. C'est Paul qui cite l'Ancien Testament. Donc, ce domaine de la pensée, de la réflexion, est tout à fait insuffisant, incapable à lui seul de nous permettre de connaître Dieu. C'est vrai aussi dans le domaine des émotions ou des sentiments. Alors, on parlait de l'intelligence, hein, c'est important. C'est important. Dieu a créé l'homme pour que l'intelligence joue un rôle dans sa vie. Ne pensez pas qu'un chrétien soit quelqu'un qui renonce à toute intelligence. Non, non, non. Le livre des Proverbes, si souvent, hein, insiste sur l'importance d'un cœur intelligent, du bon sens, de la réflexion même. Un pasteur disait un jour que ce n'est pas un hasard si Dieu a créé l'homme avec la tête au-dessus du reste des membres de son corps. Hein. C'est pour qu'une saine intelligence, voyez, dirige nos réflexions. Un chrétien n'est pas un écervelé. Mais par une saine réflexion, il est appelé à se diriger dans la vie, mais aussi dans la foi. Hein. Pas seulement avec sa pensée obscurcie, mais avec l'action de Dieu en nous et et la foi dans sa parole. Il en est de même, donc, nous le disions, pour les émotions ou pour les sentiments. Là encore, ça ne veut pas dire que le chrétien ne va pas éprouver des émotions. Le Seigneur en a éprouvé, hein, il a tressailli de joie, il a connu la tristesse, et le chrétien, comme tout homme, comme tout être, va réagir aux circonstances qu'il traverse, même aux expériences et même aux faits spirituels qu'il va connaître, et ça va bien sûr engendrer des émotions, mais ce n'est pas suffisant. Vous voyez, ce n'est pas ça qui peut nous amener à connaître Dieu. C'est important, parce que dans les religions du monde, l'avez-vous noté, il y a souvent un appel très fort aux émotions, très fort. Par exemple, dans la religion catholique, hein, pour ne parler que de cela, dans le cours des siècles, on a construit de gigantesques cathédrales, de grands édifices. Et tout dans ces édifices est calculé pour créer une émotion, un sentiment. Hein, quand on entre dans ces grands bâtiments, on se sent tout petit. Il y a un sentiment de majesté, et puis cette lumière qui filtre à travers les vitraux, la musique, hein, les orgues, etc. Tout ça, ça crée une ambiance, ça crée une atmosphère. Et si bien que pendant des siècles, hein, vous avez des fidèles qui se sont crus ainsi connaître, recevoir quelque chose de Dieu. Mais il n'en est rien, c'est pas du tout comme ça. Ils se sont fourvoyés. Et quand le message de la réforme est arrivé, quand Luther, quand Calvin ont commencé à prêcher ce qui était écrit, puis d'autres, ceux qui l'ont accepté, ça a tout changé. Ils se sont aperçus que tout ce qu'ils pensaient, c'était complètement différent de ce à quoi Dieu les appelait. Dans les religions du monde, on insiste beaucoup sur l'émotion. Regardez l'hindouisme, des religions comme cela, où la musique joue un grand rôle, hein, parce que la musique produit une influence forte sur l'âme. Vous voyez, elle est capable de l'émouvoir, elle est capable de la faire vibrer. Parfois, c'est accompagné même par l'action du corps, hein, avec des danses qui entraînent le corps. Ça ne veut pas dire même qu'il ne peut pas y avoir une action spirituelle quand les choses se produisent de cette manière, si l'âme en vient à se vider. Mais c'est souvent une influence mauvaise. Hein, dans certaines pratiques, dans certains pays, des gens se mettent ainsi en relation avec les démons. Voyez, non, 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 toutes ces choses ne doivent pas être confondues avec la manifestation de Dieu. Elles se passent au niveau de l'esprit. Et on déborde un petit peu sur ce que l'on va dire, mais au niveau de l'esprit, qu'est-ce qui se passe? Comment faire pour recevoir les choses dans l'esprit, par l'esprit? Bien, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ, recevoir le témoignage rendu par sa parole et se soumettre volontairement à Dieu dans la foi et dans l'obéissance. Et quand on fait ces choses-là, et seulement lorsque l'on fait ces choses-là, eh bien ça ouvre la porte à une action bénie, spirituelle de Dieu, là, dans notre esprit. Vous voyez, Paul dira « Dieu que je sers en mon esprit » dans l'évangile de son Fils, par exemple. Et c'est dans la foi uniquement, dans la foi au Seigneur Jésus-Christ, que nous pouvons connaître Dieu. Tout le reste est souvent un leurre. Et nous devons veiller à ce que ça ne se substitue pas, voyez, à l'action spirituelle de Dieu. Nous ne pouvons pas non plus connaître Dieu par le domaine de notre volonté. Hein, on est toujours là à réfléchir sur l'âme. Bien sûr, le Seigneur fait souvent appel à notre volonté. Et servir Dieu et lui être fidèle nous demande parfois de sérieuses actions de notre volonté. Hein. Et parfois, c'est pas facile d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Job disait « J'ai fait plier ma volonté aux paroles de ta bouche ». Ça veut dire que parfois, on sait ce qui est bien, on sait ce qui est bien, on le sait bien, mais nous voyons en nous une résistance. Hein, et qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut faire comme Job, voilà, dans la foi. « Seigneur, j'ai pas envie, parce que mon cœur est méchant et mauvais, voilà, c'est tout. Seigneur, je suis ton enfant. » Tu m'as donné ta parole, tu m'as donné ton esprit, aide-moi. Dans la foi, je crois que si je fais ce que tu me dis, eh bien je m'en trouverai bien, parce que c'est toi qui as raison. Et si tu me le dis, d'abord tu seras glorifié, ça c'est le plus important, c'est à cela que tu m'appelles. Et ensuite, en plus, même pour moi, ce sera la meilleure des choses, alors je veux courir dans la voie de tes commandements. Ça c'est vrai, donc il y a parfois des choix, il y a une action de la volonté. Mais la volonté à elle seule ne peut pas nous conduire à connaître Dieu. Jean écrira de la parole faite chair, de la lumière manifestée aux hommes, le Seigneur Jésus-Christ, à ceux qui l'ont reçu. à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés ? Non du sang. Ça veut dire qu'on ne devient pas chrétien parce que ses parents le sont. Hein, il y a ici des enfants de chrétiens. Eh bien, vous avez besoin de vous convertir. Vous avez besoin personnellement de recevoir, de vous repentir de vos péchés, de vous approcher de Dieu pour qu'individuellement, le Seigneur puisse intervenir dans votre vie, vous accorder le pardon de vos péchés et vous ouvrir le ciel. Et ça, ça se vit individuellement, que nos parents soient chrétiens ou païens. On a besoin de le vivre ce matin individuellement. Si ce n'est pas fait, bien, il faut le faire ce matin. Hein ? C'est aujourd'hui le jour favorable. Donc, non du sang, ni de la volonté de la chair. Ni de la volonté de la chair. Ça veut dire que ce ne sont pas les hommes qui peuvent, par leur volonté, vous faire connaître Dieu. On aimerait, hein, en tant que chrétiens, que nos parents, nos amis les plus chers, connaissent aussi le salut, le bonheur que nous avons, échappe à la condamnation. Mais nous ne pouvons pas décider pour eux. Et Jean ajoute, ni de la volonté de l'homme. C'est-à-dire que ce n'est pas nous-mêmes qui, par notre volonté, pouvons produire ces choses. Eh oui, nous avons besoin que dans notre esprit, il y ait une action de Dieu. Tenez, le Seigneur dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que nous n'avons pas le devoir de nous tourner vers Dieu aujourd'hui, de répondre à son appel, de choisir de lui répondre ? Non, non, pas du tout. Bien sûr que nous avons ce devoir. Le Seigneur nous adresse sa parole et avec sa parole, il nous donne son esprit pour la recevoir. Vous voyez, accompagnant la prédication de l'Évangile, il y a toujours une action bénie, vivifiante de l'Esprit de Dieu. Béni soit son nom. Et ça, ça nous ouvre le ciel. Ça, c'est une action spirituelle qui se produit lorsque nous acceptons cette action. On peut malheureusement lui résister. Mais lorsqu'on l'accepte, béni soit Dieu. Hein, c'est la vie et la vie en abondance. Ce que l'Écriture montre bien, on le comprend, c'est que voilà, la volonté seule n'est pas suffisante. La volonté de l'homme n'est pas suffisante pour nous faire connaître Dieu. On va terminer ce matin simplement par la lecture d'un texte pour nous montrer un petit peu là ce que l'Écriture nous enseigne quant à cette relation avec Dieu qui est possible au niveau de l'esprit. On va lire dans la première épître de Paul aux Corinthiens, c'est un texte assez complet, mais je vous invite à le découvrir. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2, première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2. Et au verset 1er, première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 1er. Alors, pour bien comprendre ce texte, qu'est-ce qu'il veut, Paul, quand il écrit aux Corinthiens ? Qu'est-ce qui se passe à Corinthe ? C'est une église qu'il affectionne. C'est une église où il y a une difficulté. Ça lui a été rapporté par des chrétiens qui connaissaient bien cette église et qui connaissaient bien l'apôtre. La difficulté qui se produisait à Corinthe, vous le vérifierez au chapitre 1er, c'est qu'il y avait des divisions. Certains Corinthiens disaient moi, je suis disciple de l'apôtre Paul. Hein, Paul, ça c'est lui que je veux suivre. D'autres disaient non, moi c'est plutôt Pierre. Hein, c'est mieux Pierre. Je suis un disciple de Pierre, voilà. Et d'autres disaient non, moi c'est Apollos. Hein, son éloquence, son savoir, ça. Son oratoire, mon conquis, moi je suis un disciple d'Apollos. Et puis d'autres disaient encore, moi c'est ni l'un ni l'autre, je suis disciple de Christ. Alors ça paraissait très bien, et on comprend lorsqu'on lit Paul que sous une apparence de spiritualité, en réalité, ceux qui parlaient ainsi rejetaient toute autorité humaine pour n'en faire finalement qu'à leur tête. Et Paul va donc intervenir dans ce contexte. Il a remarqué aussi que les Corinthiens ne sont pas très loin de la Grèce, hein, à Corinthe. D'ailleurs, l'Empire grec les a englobés. Et ils accordent tellement d'importance aux dons humains. Aux dons humains. Hein, parfois même de leurs conducteurs. Et ils sont attachés à ça. Vous savez qu'en Grèce, il y avait toutes sortes de philosophes qui s'adressaient parfois aux grandes foules sur l'aréopage. Ça plaisait. Des joutes oratoires se livraient dans les grandes villes grecques. Et ça fascinait les Corinthiens. Et Paul va leur montrer que tout ça, vous voyez, ça relève du domaine de l'âme. Du domaine de l'intelligence, de la pensée, et qu'il faut qu'ils renoncent à se confier en ces choses s'ils veulent connaître Dieu. Parce que s'ils ne le font pas, ils sont immatures, les Corinthiens. Bien, ils vont se laisser entraîner, ils pourront se laisser embarquer par toutes sortes d'enseignements d'une part et par toutes sortes de sentiments qui ne leur permettront pas de vivre la gloire de Dieu. Alors Paul va leur montrer d'abord qu'au milieu de Corinthe, Dieu a choisi pas beaucoup de gens de la haute société. Il les rabaisse à leur juste niveau. Mais il le fait avec tendresse, il le fait pour les aider, il le fait pour les amener à réfléchir. Il va leur dire, il n'y a pas beaucoup parmi vous, pas beaucoup de savants, pas beaucoup de sages, pas beaucoup de puissants, car Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Il a choisi, vous voyez, Dieu choisit les choses qui ne sont rien pour confondre celles qui sont. Voilà ce que nous sommes. Puis il va dire aux Corinthiens, là on va le lire, donc chapitre 2, verset 1er, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse, que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Avec l'humilité qui le caractérise, Paul rappelle que lorsqu'il était au milieu des Corinthiens, vous le relirez, acte chapitre 18, il n'avait aucune assurance. Il était plein de crainte, ce grand homme de Dieu était plein de crainte. Le Seigneur lui-même a dû lui apparaître en disant « Parle et ne doutez point. Hein, ne crains pas, ne crains pas. Parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Et Paul donc va rappeler, après avoir rappelé aux Corinthiens qu'ils ne sont rien, il rappelle que lui aussi n'est rien. Il se souvient de ces jours où, étant présent au milieu des Corinthiens, il n'a pas pu... Paul a de la connaissance, mais il n'avait pas pu s'en servir. Il était tellement sujet là, à la crainte que ça ne venait pas de lui. Il a cette conscience, et les Corinthiens l'ont aussi, s'ils se souviennent, que c'est Dieu qui, parce que c'est Christ qui a été prêché, Jésus-Christ crucifié, parce que ce message a été apporté fidèlement dans toute la faiblesse de Paul par l'action, par l'œuvre de l'Esprit de Dieu. C'est une œuvre spirituelle, c'est par l'Esprit, dans notre esprit, que ça se produit. Les Corinthiens se sont détournés de leurs péchés et ils ont connu le Seigneur et son salut. Rapidement, on peut lire un petit peu plus loin, je vous propose les versets 7 et 8. Voilà, nous prêchons la sagesse de Dieu, sous-entendu très différente de la sagesse des hommes, hein, de ces philosophes, etc., mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Voyez, Paul réduit à néant. Là, tout ce sur quoi les Corinthiens s'appuyaient, quand ils s'appuyaient sur ce qui frappait le regard, sur ce qui marquait leur intelligence, non, c'est pas tout ça. Pas par le corps, l'œil, l'oreille, hein. Pas non plus par l'âme, par la réflexion, c'est pas des choses qui sont montées au cœur de l'homme. Dieu nous les a, verset 10, révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même que personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement que l'on en juge. Donc on termine avec cette pensée. Vous voyez, Paul va insister en s'adressant aux Corinthiens sur le fait qu'on ne peut pas, on ne peut pas et on ne doit pas, vous voyez, même pour partager l'Évangile, tenter d'en altérer même la présentation pour satisfaire les incroyants. Parce que de toute façon, si le cœur d'un incroyant n'est pas bien disposé, s'il n'accepte pas le message de Dieu, il refusera l'Évangile sous quelque forme que nous lui présentions. Et Paul dit, non, il faut... L'Évangile doit être partagé dans notre témoignage, dans notre prédication, hein, pour les prédicateurs, bien tel qu'il est. C'est la prédication de Jésus-Christ. On ne va pas pas tenter de l'embellir hein, par des fioritures, par les discours de la sagesse humaine, par un emballage hein, à la grecque, là, qui aurait plu aux Corinthiens. Non, non, non. Présentons l'évangile tel qu'il sent. Et, vous voyez, il produit cet évangile. Lorsqu'il est reçu, il produit une division. Il y en a qui ferment leur cœur et qui le refusent. Puis d'autres qui se convertissent au Seigneur. Pourquoi ? Parce que ça se passe au niveau de l'esprit. Alors, on peut rester là pour ce matin. Que Dieu nous bénisse, qu'il permette que notre esprit soit éveillé, que nous recevions les choses qu'il nous donne par sa grâce, encore une fois, pour que cette action se déroule au fond de notre esprit. Nous ne nous confions pas dans les choses du corps, même dans les choses de l'âme, mais dans ce que le Seigneur nous révèle dans sa parole, dans la volonté souveraine de Dieu, et nous l'acceptons. Voilà, on fait plier.